Taradé ce matin, ça c'est moi qui vous le dis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pire reste à venir ce matin sur les ondes de Principe Actif et de la radio HDR. Nous aurons l'occasion de discuter moto, nous aurons l'occasion également de discuter exposition. Nous avons à nos micros ce matin le club des Léopards, les Hells Angels sébruissiens. On aura l'occasion d'y revenir, ils me font déjà les gros yeux, je ne sais pas comment va se finir cette matinale. Et puis nous parlerons également du regard suspendu, on aura l'occasion d'y revenir. Suspendu, une exposition à découvrir. C'est notre ami Frédéric, que vous connaissez bien maintenant sur nos ondes, qui nous a dit non, là les gars, faut qu'on en parle. Donc nous en parlerons, bien entendu. Dans cette émission, vous retrouverez également le répondeur téléphonique, si vous nous avez laissé des messages. Vous retrouverez également Bon Matin les Pingouins, la chronique de Martine Bourg. Bah, du bon son, de la bonne humeur, et puis allez savoir des surprises, certainement.
Le pire.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et je vous le disais en introduction, nous recevons le club des Léopards. C'est un club de motards ébrouissiens. Il n'est pas tout jeune ce club, on va y revenir parce qu'il fête un anniversaire cette année. J'ai à nos micros Pascal, Serge et Roland. Bonjour, comment allez-vous messieurs de si bon matin?
Très bien.
Alors n'hésitez pas à vous rapprocher des micros, hein, et réveillez. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher des micros, hein, voilà, histoire qu'on vous entende bien. Je le disais, club de motards ébrouissiens, le club des Léopards. 50 ans, c'est ça cette année?
50 ans. Il est né en 72, dans le quartier de la Madeleine, sur l'idée d'un gendarme de l'époque.
Qui était motard sûrement, hein.
Oui, un gendarme motocycliste, Guy Rampant, qui voyant les jeunes du quartier un peu désœuvrés, leur a dit, regroupez-vous, créez un club et on fera ensemble des balades, des sorties, on organisera des manifestations. C'est comme ça que le club est né dans le quartier des Dominicaines, qui est un quartier de pavillons avec des familles nombreuses et des ados qui ont grandi et qui ont, dès 16 ans, pu acheter une moto, une vraie moto, parce que il fallait une grosse cylindrée à l'époque.
Bah oui, c'est ça, c'est important aussi, le cylindrage de la moto. On y reviendra, bien entendu.
Mais ouais. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que au même moment, l'ALM ouvrait une maison pour tous, avait son vrai bâtiment, qui lui appartenait, qui a été construit avec l'aide des habitants, avec les financements des habitants, pour les jeunes. Et donc ce bâtiment-là accueillait tous les clubs de sportifs, et donc le motoclub.
Bah, puis tout l'intérêt que les clubs se croisent et soient pas chacun dans leur coin, c'est que... Non, ça peut pas descendre le micro du tout, Roland. Il restera là où il est.
Mais il faut changer le tube.
Voilà, c'est ça. On invite des motards et puis ils veulent tout de suite nous faire de la mécanique sur notre matériel de radio.
Je vais customiser ça, moi, tu vois, voilà.
Je vous assure qu'à la fin de cette émission, notre studio ne ressemblera plus du tout à ce qui ressemblait jusqu'à aujourd'hui. Bon, on compte sur vous, mais on fera la mécanique juste après l'émission si vous voulez bien, hein. Pas avant, hein. Ni pendant, ça va faire trop de bruit. On aura l'occasion, en tout cas, de parler du club des Léopards durant toute cette matinée. Et puis nous avons également Frédéric, et puis là c'est écrit tout petit, c'est Angèle-Marie, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, qui sont également avec nous autour d'une exposition qui va se dérouler au jardin, ça y est, c'est écrit trop petit, c'est le jardin secret, c'est ça?
Non, le jardin de l'heure tranquille.
Une exposition donc avec Frédéric Grimaud, avec Rémi également, ça y est, j'ai oublié le nom, c'est terrible.
Rémi Brumand.
Voilà. Et puis, vous, Angèle-Marie Sophie, qui êtes plasticienne sur...
peintre, sculpteur, oui.
Voilà. Alors, c'est quoi, Frédéric, on l'avait déjà reçu au moins, en automne, je crois, où il avait aussi une exposition avec Rémi et un plasticien également.
Oui, Paradis oublié à Verneuil.
Exactement. C'est quoi cette envie d'allier les arts? Parce qu'en fait, là, on a la photo, on a l'écriture et on a la peinture. Pourquoi donc tout ça?
Alors ça, c'est vraiment un très vieux désir de ma part de lier tout. Le Covid, en fait, a lancé le truc parce que tous mes projets étaient annulés. Alors j'ai créé un jardin qui s'appelle l'heure tranquille parce qu'on habite dans l'heure et où j'invite les gens à rester une heure tranquille, de découvrir l'art dans la nature. Et j'invite chaque année deux artistes de participer et de créer une scénographie thématique avec ce jardin. Et cette année, je suis très heureuse d'avoir récupéré Frédéric et Rémi pour vraiment de mélanger les arts, d'avoir un regard de plusieurs côtés. Voilà, c'est pour ça qu'il est né Regard suspendu.
Très bien, bah nous aurons l'occasion également d'y revenir. Mais tout de suite, j'avais promis aussi de la bonne humeur et de la bonne musique. Je vais vous envoyer un tout premier titre. Bon, je vous laisse apprécier tout simplement de quoi que ça cause.
Travaillez plus, gagnez plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander. Quand je glande faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça bouge sud.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Et si un jour un beau matin je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour le Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République d'Atlante. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banc. Ce sera un pays sans banc. Et tant qu'ils sourront à moi joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout. Pensez pas me faire bosser assis. Encore moins me faire taffer à genoux. Je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là à vivoter au soleil sans préoccuper, sans préoccuper, sans préoccuper.
Zoufri Maracas avec J'aime pas travailler. Nous retrouvons tout de suite notre répondeur.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah là, like t'es mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Les pingouins.
Bon matin, les pingouins.
L'ours blanc, en trottinant, va dire au revoir à l'ours noir. Bonsoir.
L'ours brun ira demain faire une bise à l'ours grise. Surprise!
Parti. Un jour de neige, tu es parti. Un jour de froid, un jour de glace. Un jour tout gris. Tu n'as pas laissé de traces, tu n'as rien dit. C'est ainsi que sur la terre ont disparu les ours polaires.
The Death Sauce. Je suis pas très fort en anglais, hein. Chaque fois je me fais reprendre là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes toujours dans le pire reste à venir sur les antennes de Principe Actif et d'HDR, et nous recevons ce matin, comme on vous l'a dit, le club des Léopards, club de motards hébroïciens. On a esquissé rapidement, la naissance de ce club de motards autour, en fait, des jeunes qui tournaient avec les motos, et puis un ancien gendarme. Motocycliste, ouais, c'est ça. Motocycliste. Je me suis dit, il manquait un truc, là, vous avez un cycliste. Bon, forcément. À moins de mettre des petits bouts de plastique dans les rayons, comme on faisait, comme quand on était gamin. Sinon, ça le fait pas, quoi,
faut
tout simplement. Exactement. Et on le disait, c'est un club qui a 50 ans, en ce moment, on va dire. Hein, on va pas être trop précis, parce qu'on retrouvera jamais les papiers de la déclaration d'il y a 50 ans, hein.
Ils sont perdus.
Oui, ils sont dans des archives. On va pas faire l'affront d'aller faire les archives quand même pour vérifier. Mais en tout cas, c'est il y a une cinquantaine d'années. Il y a 50 ans même, a été créé ce club. Que propose le club des Léopards aujourd'hui, en 2023?
Beaucoup de choses pour les motards et son public, et beaucoup de choses aussi pour ses membres. Donc pour le public motard, des manifestations.
Des rassemblements.
Oui, dans la vie du motoclub, il y a eu effectivement des rassemblements, des courses d'endurance de Solec sur le parking du supermarché qui à cette époque s'appelait Mammouth. devenu Carrefour, a organisé des balades, des sorties sur des circuits, a organisé des courses de Solex, des trials. Alors, à l'époque, les premiers trials, dans le début des années 70, il n'y avait pas de différence entre anciens et modernes. Ça s'appelait des trials tout court.
Alors, les trials, en quelques mots, ça consiste...
C'est une épreuve. En fait,
ça consiste en quoi précisément ?
C'est une pratique moto qui fait appel à l'équilibre des gens. Mais Serge en parlera un peu plus tard, beaucoup plus longuement. En tout
c'est
cas,
le spécialiste
pour parler,
du trial.
Voilà. Pour parler de l'épreuve vintage, c'est à la mode maintenant le vintage, qu'on organise cette année au mois de décembre, au mois d'octobre, le 8 octobre. Donc ce sera un moment phare de la vie du motoclub, après d'autres manifestations sur lesquelles on pourra revenir un peu plus tard également.
Ouais, on va revenir sur les manifestations. Moi je voulais savoir, finalement, est-ce que ça discute mécanique quand même dans ce club de motards ? Parce que moi j'ai cette image, quand je dis des bêtises, vous m'arrêtez, hein, j'ai cette image un petit peu que finalement la moto, ça se bricole quand même. Il y a un lien entre le motard et la moto, quoi.
Oui.
C'est plus qu'entre l'automobiliste et son auto.
Moins que par le passé quand même, parce que les motos sont devenues plus fiables. En tout cas pour les machines de tourisme, pour les machines de compétition, de vitesse ou d'enduro, de trial ou de motocross, les pilotes sont bien amenés à bricoler. Enfin, c'est plus du bricolage, hein. Ils font de la mécanique,
oui, c'est de la mécanique
très
ouais.
sérieuse, parce que le club est affilié à la Fédération Française de Moto, et cette fédération, en fait, au début d'une épreuve, organise des contrôles techniques des machines. Et il faut être très respectueux du règlement. Et donc, on n'est pas dans du bricolage. On est vraiment dans des machines qui sont préparées après de nombreuses heures de travail.
On n'a plus la sacoche de clés accrochée à la moto. C'est fini, ça ?
Si, pour faire joli.
Ah, oui,
bah. En trial, encore. On a toujours la sacoche sur nous.
Bien dans
toujours la sacoche sur nous pour les petites réparations suite aux chutes ou aux
petits problèmes. C'est ça, resserrer le câble de frein, remettre le...
Non, parce que maintenant, c'est forcément du frein à disque. C'est fini les câbles.
C'est fini.
Désolé. Et mais effectivement, on a toujours...
Bon, je vais m'inscrire en vintage. Là où il y a encore du câble.
En vintage, il y a du câble. Oui.
Donc,
on peut encore enrouler du câble, d'ailleurs, effectivement. Oui.
Bon.
D'où l'expression enrouler du câble.
Voilà, ça vient de chez les motards ?
Oui, oui, bien sûr.
D'accord, on roule du câble. Non, parce que sur la scène aussi, souvent, on roule du câble. On dit on roule du câble, mais finalement, c'est les motards qui roulaient du câble. Hein.
C'est tourner la poignée, en fait.
Ben voilà, c'est ça, c'est rouler du câble autour de la poignée pour aller plus vite. Mais c'est ça l'idée.
C'est
hein.
tout à fait ça.
Alors, qu'est-ce qui se racontent les motards quand ils se croisent, finalement ? Qu'est-ce qu'on se raconte quand on est motard, qu'on se retrouve en rassemblement, déjà, on se parle de quoi ?
Déjà, quand ils se croisent, ils sont un appel de phare. Ou ils sont un signe de la main. Dire
oui,
bonjour.
Ça, on le voit souvent sur la route. Ouais. Ça veut dire quelque chose quand même. C'est qu'évidemment, c'est une communauté.
Oui,
il y a quelque chose autour de ça.
Ouais, on peut dire ça. C'est né en fait des années où la moto n'était pas très fiable. Et quand quelqu'un tombait en panne sur le bord de la route, il aimait bien trouver un motard qui passait, qui s'arrêtait et qui venait l'aider, qui venait le dépanner. C'est de là qu'est née l'entraide motarde.
Mais c'est pas une légende, ça existe toujours, cette entraide motarde.
Alors, moins parce que les motos sont plus fiables.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? C'est pas une bonne chose, j'ai l'impression que les motos soient fiables. En fait, finalement, on bricole plus, on cède plus. C'est un problème, cette moto fiable.
J'ai même vu, un jour, une moto qui était stationnée, il n'y avait pas une flaque d'huile au pied.
C'est terrible, cette histoire.
Qu'est-ce que c'est bête.
On a l'impression quand même qu'effectivement, même dans la moto, on en parle souvent dans l'automobile, qu'aujourd'hui tout est électronique, tout est géré, tout est alors fiable. Ça peut être bien que ce soit fiable, mais finalement, on sent presque avec une nostalgie quand même dans la moto pas fiable.
Ça a enlevé du charme, un certain charme, mais c'est vrai que les mains noires de cambouis, aujourd'hui, c'est moins apprécié.
On peut s'en passer, quoi.
Oui.
Et on peut plus faire le coup de la panne.
Ah, on peut plus faire le coup de la... Ben voilà, c'est ça. On y revient à ces machines trop fiables. Hein. Non, mais c'est pas possible. Faut acheter de vieilles machines. On peut plus faire le coup de la panne. On peut plus faire la solidarité. On peut plus bricoler ensemble. On va finir par s'ennuyer en moto, non ?
Non.
Non, bon, ça va alors.
Pas du tout.
Non, parce que 50 ans, c'est un âge mûr. Très mûr. C'est plus l'âge bête, mais c'est pas non plus l'âge blette.
Ouais, c'est ça.
C'est un âge vivant. En tout cas, c'est un âge de raison pour que les gens qui adhèrent au motoclub fassent... la fête et pratiquent leur passion commune, la moto, avec beaucoup de plaisir.
Ça, c'est un truc qu'on voit aussi régulièrement. Ce qu'on peut retrouver des fois dans les amateurs de voitures anciennes, quand je parle automobile, quand je parle de la route et de la mécanique, c'est ce qu'on retrouve parfois chez les amateurs de voitures anciennes. On retrouve ça chez les motards, mais même du coup sur des motos récentes ou sur des passionnés de motos récentes. Il y a ce côté, l'envie de se rassembler. Il y a des rassemblements, notamment, il y a un grand rassemblement, c'est Louviers-Val-de-Reuil, je crois, tous
oui,
les ans, c'est ça.
Deux fois par an.
Deux fois par an même.
Et des puces motos, en fait.
C'est ça, ouais. Et j'ai l'impression que la vie des motards est assez riche, qu'il y a quelque chose quand même qui lie un peu les gens dans la pratique.
Elle est animée par, en fait, une passion individuelle, parce qu'un motard, c'est souvent quelqu'un de solitaire sur sa moto, mais elle est aussi animée, la vie motarde, par des moments de groupe, des rassemblements, entre autres, comme tu en parlais à l'instant, les puces moto de Val-de-Reuil, mais des rassemblements de motos anciennes ou des rassemblements liés à des courses, par exemple au circuit Carole en région parisienne, c'est pas très loin, donc c'est une bonne occasion de pouvoir s'y rendre. Des salons aussi, voilà, donc c'est
assez vif quand même, la vie du motard.
C'est très vivant, en fait.
Ouais. Moi, j'ai la sensation, alors c'est peut-être pareil, une fausse image, qu'il y a un côté un peu liberté à travers la moto, cette espèce de vent dans les cheveux, alors même avec un casque, hein, mais c'est une image. Moi, j'ai toujours en tête Easy Rider quand on parle de moto. Non, mais alors c'est une vieille image, hein, je suis d'accord, hein, mais on peut pas la nier complètement, cette image de Easy Rider, quoi, sur les grandes routes.
D'ailleurs, on s'y voit encore.
Ah oui, vous y voyez encore.
Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, enfin, il y a encore un vent qui souffle de résistance à un certain nombre de choses. Dans la fin des années 70, c'était pas pour rien que la Fédération française des motards en colère est née au Havre et a lutté à l'époque contre la vignette moto. Et donc après, il y a eu d'autres combats sur et les derniers. Le dernier combat aujourd'hui, c'est la lutte contre l'obligation des contrôles techniques sur les deux roues.
C'est combien de membres du club motard? Parce qu'on n'est plus sur les jeunes de la Dominicaine aujourd'hui, sur le club des Léopards. C'est combien d'adhérents, combien de motards?
Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'adhérents. Bon, ça varie suivant les années. On est monté jusqu'à une centaine. En fait, ce qui fait venir et rester les motards dans le club, c'est aussi ce qu'on organise. Et donc, il y a des organisations phares qui ont amené à un moment donné plus de monde qu'aujourd'hui, mais on ne désespère pas. Et donc, on invite les motards, toutes cylindrées, toutes motos, hein, parce qu'il n'y a pas que des grosses cylindrées. On a des motards chez nous qui ont des moyennes cylindrées. On souhaite aussi pouvoir, et on le fera au travers d'une manifestation qu'on organise prochainement, une sortie moto réservée aux 125 cm3. C'est un public qui est souvent oublié. Et on souhaite que, voilà, organiser prochainement, la date c'est le 23 avril, une sortie 125 réservée aux titulaires du permis 125, donc leur organiser une belle balade dans la région d'Evreux.
Vous évoquiez à l'instant qu'ils étaient un peu oubliés parfois, les 125, c'est des motards comme les autres, les 125, ou pas?
Bon, bien sûr, et non, c'est comme ça que naît la passion.
On a tous commencé par des 125.
Non, parce que c'est souvent, quand on voit dans les rassemblements, il y a quand même, et on va y venir sur la notion de cylindrée, parce que c'est quand même important sur la moto quand même, et par rapport aux performances, mais pas seulement, parce que j'imagine que quand on fait de la moto, il y a le bruit du moteur aussi qui compte quand même, il y a le modèle, il y a le confort aussi, au bout d'un moment, qu'on a le droit d'avoir sur une moto. Et la question, effectivement, c'était le 125, c'est souvent la première moto, en tout cas, c'est le premier plaisir moto, quoi.
C'est vrai surtout maintenant, parce que c'est plus facile de passer les différents permis 50, 125 à 2, et puis après
le c'est jusqu'à permis. 600, c'est ça, ou
c'est non? Ça, non, alors c'est plus la cylindrée, c'est en kilowatts, et j'y connais rien.
C'est la puissance, en fait, qui détermine.
C'est ça, en kilowatts, plus en ouais. Centimètres cubes.
Non, c'est plus juste, d'ailleurs, parce que
il y a des 250 cm3, par exemple, qui sont plus puissantes qu'une 500 cm3. Donc le législateur a fixé une barre par rapport aux puissances des motos et pas par rapport à leur cylindrée.
Il y a eu une tentative, ils avaient bloqué à 600 cm3, ce qui fait qu'il y avait des avions de chasse qui étaient en 600 cm3 qui pouvaient rouler avec ce permis, je sais pas si c'était A2 à l'époque d'ailleurs. Ouais. Mais c'était dangereux, et c'était ces motos-là qui étaient accidentogènes, parce qu'elles étaient beaucoup trop puissantes malgré leur cylindrée entre guillemets faible.
Mais bon, moi, on parle beaucoup de risques de la pratique. Moi, ce que je voudrais retenir quand même, c'est le plaisir.
Ah bah oui, c'est surtout quand on reçoit les léopards, on va en parler
de
plaisir.
La moto, le plaisir d'avoir ce sentiment de liberté quand on roule, le plaisir d'être en groupe aussi, et même si on est tout seul sur une moto, sur un plaisir solitaire, c'est un plaisir solitaire qui est partagé avec d'autres.
Des sorties communes, voilà. et collectives, et ça, c'est plutôt intéressant aussi de pouvoir partager la passion.
C'est ce qui est le plus intéressant.
C'est ce qui est le plus intéressant. On voit Pascal, il fait, c'est quand même intéressant. Hein, il y a quelques motos mythiques un peu au club, des trucs, des gens qui possèdent des motos, alors pas forcément en puissance, hein, mais en soit elles sont mythiques, soit elles ont une histoire, soit...
Président avait une 1000 Vincent. Donc ça, c'est une moto des années 50 qui roulait à l'époque à 200 à l'heure, donc avec des freins qui étaient approximatifs. Et donc, mais il faut pas freiner, autrement. À quoi ça sert d'avoir la puissance si on freine?
Le meilleur frein, c'est l'accélérateur.
Mais donc ouais, y a, l'ancien président avait
une 1200, c'était
moto,
vraiment une machine.
Machine anglaise et dont la construction récente a été, en fait, Vincent a revendu des droits à un constructeur avec sur la base de d'un cadre Egli, un préparateur suisse, et donc ils reconstruisent en fait des machines. De ces années 50.
Roland, tout à l'heure, il disait qu'il voulait costumiser le studio. On fait ça sur les motos, ça fait partie du plaisir de la moto, d'aller customiser, mettre des éléments personnels, en fait, sur la machine.
Avoir la même moto que le voisin, ça, à quoi ça ressemblerait, franchement. Et dans les discussions, on le fait un peu moins, on vieillit. Mais dans les discussions, c'est aussi, t'as vu, j'ai mis des boulons avec une tête de mort. J'ai changé le truc, j'ai changé l'échappement, j'ai changé. J'ai deux chevaux de plus parce que j'ai une admission qui est plus.
Ouais, mais c'est la passion, quoi.
C'est la passion, exactement.
Et donc, du coup, oui, ça continue quand même toujours un peu costumisé. Il y a le bruit du moteur aussi qui est important dans la moto. Je ne sais pas si vous y êtes sensible en particulier, mais il y en a qui reconnaissent le modèle, la motorisation ou le truc rien qu'à 200 mètres avant que la personne arrive.
Bien sûr, la Harley Davidson.
Oui.
Les deux bielles sont raccordées au même maneton. C'est un bruit complètement différent. Ça, c'est comme l'avance à l'allumage. C'est pour embêter le monde. Non, mais c'est un moteur qui est mécaniquement est mal foutu. Mais c'est ce qui fait son charme. Et depuis 1903, il continue à faire le même modèle de moto avec ses deux bielles raccordées au même maneton. Le maneton, c'est le truc qui tourne. Et
alors, un calage moteur à 360 degrés, c'est pas un calage à 180?
Bah oui, c'est complètement différent.
Le bruit n'est pas le même.
Ben sûrement, c'est pour ça que je me renseigne, parce que je suis vraiment novice en la matière. Je sais juste que cette histoire de bruit, elle est importante quand même.
Mais si c'est un mono, un bicylindre, un 3-cylindres, un 4-cylindres, ou même un 6-cylindres,
bah oui.
Ce n'est pas le même bruit. Et donc, effectivement,
bruit,
on peut reconnaître au bruit une machine, sa marque, le modèle, sa cylindre.
C'est rigolo parce que juste à côté, il y a Roland qui fait « c'est pas du bruit, c'est de la musique ». Il y a aussi ce côté-là quand même de comment chante le moteur. D'ailleurs, c'est une expression, comment chante le moteur. C'est important. Il y a aussi des fois comme ça, quand on se croise avec les motos, se dire « tiens, regarde, là, ça tourne comme ça. Ah oui, mais ton bruit, il est pas un peu machin ?» Ou on détecte un peu la panne au bruit aussi des fois, ou la fatigue des éléments. Ouais.
Au bruit, on sait si c'est bien réglé ou pas réglé, ou mal réglé.
Oui. Ouais, c'est ça, on peut faire à l'oreille.
Oui, à l'oreille.
Et alors, trouver un bon mécano moto, ça existe. Enfin, dans le coin, j'entends, on arrive à trouver facilement du mécano moto. Ouais, ça va.
Il y en a chez Perrin, chez Motovax, chez Daffy. Donc, c'est les trois boutiques moto sur Évreux qui ont des mécanos qui sont compétents.
Qui sont compétents et du coup c'est plutôt pas mal. Voilà, on ramène sa machine, on discute avec le mécano quand même, ou on lui confie comme ça les yeux fermés?
Non,
parce que là on parle passion depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on lui confie les yeux fermés sa machine ou pas? Ou on veut être un peu derrière pour savoir?
Surtout quand il part avec pour faire un essai.
Ah ouais? Ah, ça met la boule au ventre, ça. C'est quoi? C'est comme prêter sa brosse à dents? C'est...
Voilà!
Ouais, il y a un côté un peu, j'avais pas trop envie.
Très mais perso. Bon.
C'est ça. Il y a un côté, ouais, perso, comme ça, la machine, ça se prête ou pas une machine? Enfin, une moto?
Oui, bien sûr.
Pascal, moins apparemment. Pascal, moins.
Jadis, au club, on s'échangeait, dans les balades, on s'échangeait les motos, les passagères, les. Oh! Et... Ah bah oui, tout!
Et là, tu t'en vas sur un terrain glissant, Roland.
Bah si, on faisait ça dans les Vosges quand on y a été sur le perche des sorties de groupe où tu veux essayer là, je sais plus ce que c'était. Alors tout le monde voulait essayer la Harley.
Oui, forcément. Ouais. Et bon, il y avait pas assez de kilomètres pour que tout le monde l'essaie, c'est ça.
Ensuite, on trouvait des kilomètres.
Sur justement les sorties moto comme ça, vous expliquez pour le grand public, il y a des événements qui sont organisés. On y reviendra dans un instant sur les balades à moto. Mais ça, c'est sur une journée. Est-ce que y a le trip d'aller partir plusieurs jours, goûter à la liberté,
le fait au motoclub, on le fait. Ouais. C'est le week-end de l'Ascension en général qui est réservé à ça. On part sur les 4 jours du week-end de l'Ascension. Là, on part sur le Morvan.
D'accord.
Sur le prochain week-end de l'Ascension. Oui, sur plusieurs jours, parce que c'est bien agréable de pouvoir pratiquer la moto sur plusieurs jours. Après, on a quelques membres du motoclub qui ont fait des beaux voyages aux États-Unis sur la route 66.
Ah bah, les mythiques, celles-là, j'imagine. Voilà. Ah Roland, oui, Roland sur la route 66. On a d'autres sensations sur la route 66 ou c'est le mythe qui nous porte?
Ben, c'est forcément le mythe, mais quand vous êtes au Texas ou au Nouveau-Mexique et que le prochain virage, il a 250 km, vous roulez et il n'y a rien. Parce que la route, il n'y a rien autour. C'est vide, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de... Vous voyez juste la montagne dans le fond, et vous avez roulé pendant 2 jours, elle est toujours dans le fond. Vous ne l'avez toujours pas atteint. Et ça, c'est magnifique. C'est quelque chose, juste avec le bruit, le son, le comment, la musique du moteur.
La vibration.
Les vibrations, la route, le vent, le...
On sent quand vous le racontez. Ça y est, vous êtes retourné sur la route 66, là.
Mais, alors, il n'y a pas que la route 66. Quand on s'est promené dans les Vosges, par exemple, alors les Vosges, c'est le contraire.
C'est des virages partout.
Des virages partout. Et dans une épingle à cheveux, quand vous rentrez, il faut savoir comment elle va en sortir, quoi. Mais ça, c'est pareil. C'est quelque chose. Le virage, c'est un moment qui est à la fois de rupture et aussi de stabilité. Parce que la force centrifuge, elle vous guide dans ce virage. Et
c'est un grand manège forain, en fait.
Ah oui.
On est comme dans un manège forain.
Ouais, c'est drôle de vous entendre parler. Il y a vraiment un quelque chose dans la voix, dans l'explication.
Et de pouvoir, en fait, sur une route sinueuse, avoir une avancée de la moto qui suit les courbes très... Comme un artiste décide sur une toile, une courbe. Et ben là, la moto, c'est pareil. On a cette même sensation d'avoir réalisé un beau tracé sur la route.
Mais c'est ça, vous conduisez des pinceaux.
Presque.
une trajectoire qui est jolie, tout en restant en sécurité, bien sûr, parce qu'il y a des usagers sur la route, et il faut les éviter. Mais c'est vrai que c'est un...
Je peux poser une question?
Bien sûr.
Ah bah oui, bien sûr. Bien dans le micro, par contre.
J'aimerais savoir pourquoi Léopard.
Ah, Léopard, parce que c'est l'emblème de la Normandie, en fait.
Ah.
Et dans les années, dans le début des années 70, souvent les motoclubs qui naissaient prenaient un emblème de la région dans laquelle ils étaient, ou d'animaux. Dans l'occurrence, le léopard, c'est l'emblème normand. Donc c'est pour ça que le motoclub porte ce nom, et qu'il a été parrainé, le motoclub, par Jack Findlay,
oui,
et qui est décédé en 2007, si ma mémoire est bonne. C'est un pilote du Continental Circus. Hein, à l'époque, les courses de vitesse se passaient uniquement sur des circuits européens. Et donc, ça s'appelait le Continental Circus. Avec un de légendes, c'est celui du Tourist Trophy sur l'île de Man, le Titi. Et d'ailleurs, sa femme, j'ai vu dans LVM, il n'y a pas très longtemps qu'elle est décédée. La femme à Jack Finder, en fait, était un peu la nounou de tous les pilotes du Continental Circus. Et bon, l'âge faisant... Elle a quitté ce monde il n'y a pas très longtemps.
Donc elle coupait sa viande, elle bricolait la moto, elle poussait pour démarrer.
Sur tous les circuits d'Europe,
c'était,
Spa,
oui, c'était quelqu'un.
Hockenheim, Assen, Donington, enfin tous les circuits européens qui étaient suivis par les motards qui à l'époque... vivaient dans des tentes, hein. Ils n'étaient pas logés dans des beaux mobilhomes ou des beaux vans ou dans des hôtels. Ils vivaient pour certains sur le circuit sous tente parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens.
Puis ils étaient au pied du circuit, collés à la moto, il n'y avait plus qu'à quoi.
Voilà.
Levé, café, moto. par rapport à la question d'Angèle Marie, heureusement que la Normandie c'était pas un poulet, hein, le symbole. on aurait eu l'air frais.
On n'aurait pas choisi.
Ouais, c'est ça, on n'aurait pas choisi. Je vous propose que nous repartions en musique et on vous retrouve, bien entendu, juste après.
On a night like this, I'm so glad you came around. Hold on to me so tight and heat up some coffee, Brown. We got so much to talk about and so much to reminisce. It sure be right on a night like this. Well, on a night like this, I'm so glad you here to stay. Hold on to me, pretty miss, and say never go away astray. Run your fingers down my spine, bring me a touch of bliss, and it so feels right on a night like this. Well, on a night like this,
get any sleep. I was so cold outside, and the snow is so very deep. Build a fire, throwing along, and listen to the hills. And let it burn, burn, burn on a night like this. Get your body next to mine, and keep me your company. There's a plenty of room for all.
Là encore un titre qui va me donner du fil à retordre, à savoir Bunkwet Zindeco, ça ce sont c'est, voilà, l'artiste exactement, et le titre On a Night Like This, bah, je m'en serais sorti finalement.
Oh bah c'est bien, et c'est, ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans acteur? Oui.
Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, ça, bah merci de toutes ces précisions.
HDR. Principe actif.
Et nous sommes toujours avec le club des Léopards et également avec les protagonistes de l'exposition que vous pouvez trouver. Est-ce qu'on peut déjà la trouver à partir de... Est-ce qu'elle est déjà installée ou il faut attendre le 1er avril pour voir cette expo? Parce que c'est le vernissage le 1er avril.
Voilà, c'est ça, on l'est installé, on s'est bien pris avant et on est très content parce qu'on a eu des rafales de vent pour tester si notre installation tient le coup.
Tient la tempête. Elle tient la tempête?
Ah, elle tient la tempête. Bon, j'étais obligée de renforcer, mais voilà. Parce que Frédéric a décidé de mettre une installation photo. Ça veut dire qu'on trouve des vieilles portes avec des photos qui nous amènent ailleurs. C'est pour ça aussi cette question de regard suspendu, parce qu'on a dit, en fait, qu'est-ce qu'on trouve derrière une porte? Qu'est-ce qu'on trouve derrière une fenêtre? Et ça, c'est le travail de Frédéric.
Eh bien, on reviendra dessus dans un instant, mais on est rassuré du coup que la tempête tienne, et en tout cas, à partir du 1er avril, on pourra donc profiter de regards suspendus. Moi, je voulais revenir et m'adresser un peu plus à Serge sur la partie sportive, en fait, de la moto. On l'a évoqué très, très rapidement tout à l'heure, le trial, qui est le franchissement d'obstacles, qui est un boulot de précision, en fait, avec la machine. C'est pas forcément à grande vitesse, hein, c'est même parfois à l'arrêt. Enfin, des fois, il y a même des temps d'arrêt. En quelques mots, le trial, quoi, qu'est-ce, comment? Et puis, qu'on revienne un petit peu sur cette notion de trial vintage.
Alors, le trial, c'est un sport qui se pratique donc avec des motos très légères, qui sont d'une cylindrée de 125 à 300 cm3 au maximum, qui sont très légères, qui n'ont pas de selle pour les trials modernes. Et en fait, le but, c'est de franchir les obstacles et les portes suivant la catégorie, sans poser le pied à terre.
C'est des trucs
à vitesse réduite.
Voilà, c'est des trucs des fois où on voit où ils s'y reprennent à plusieurs fois, ça saute.
En fait,
ça...
c'est le franchissement de rochers, c'est les montées sur des racines, des descentes un peu vertigineuses, etc. Et tout ça, c'est à vitesse très réduite, hein, quasiment à l'arrêt. Et donc, le but étant de ne pas poser le pied à terre dans les zones.
Alors, on pourrait penser que c'est finalement moins physique qu'une course ou autre, mais pas du tout.
Non, c'est très physique. En fait, sur un trial, il y a en général 3 tours. Et sur ces 3 tours, il y a 11 ou 12 zones par tour. Donc, les zones, c'est des petites portions qui font entre 50 et 200 mètres de long, qui sont jonchées de portes suivant les catégories de difficulté. Et en fait, c'est à parcourir 3 fois dans la journée. Et donc, en fait, grosso modo, vous faites un effort physique qui est un peu plus long qu'un match de foot, quoi.
D'accord.
Vous êtes dans les zones.
D'accord. Est-ce que le chrono, ça compte sur un trial ou c'est que le franchissement d'obstacles?
Alors, pour le chrono, il y a un chrono général, parce qu'il y a donc un parcours de liaison qui fait X kilomètres, en général, sur entre 5 et 15 kilomètres. Donc, il y a un temps donné de départ et d'arrivée qui est théorique et qui est calculé sur une moyenne horaire de 20 km/h. Donc, très faible pour faire les liaisons. Et dans les zones, il n'y a pas de notion de chrono.
D'accord, c'est vraiment, faut pas toucher le pied, quoi.
Il n'y a qu'à haut niveau en championnat de France ou en mondial, où là, il y a un chrono d'une minute trente pour le franchissement des zones.
Oui, parce que certains, enfin, voilà. Il y en a peut-être trop qui y arriveront.
Fait, il y a beaucoup de choses qui se préparent donc en surplace. Quand vous êtes devant un obstacle conséquent, avec peu d'élan, quand je parle d'obstacles conséquents, ça peut être des obstacles qui vont jusqu'à 2 mètres de haut pour les plus forts, hein. et que vous avez un mètre d'élan. Donc ils se préparent, ils se placent, et effectivement ils ont des moments de surplace. Donc pour éviter que ces surplaces soient trop longues, parce qu'après ça permettrait pas aux autres de pouvoir passer, parce qu'on passe les uns derrière les autres, donc il y a un temps d'une minute trente qui est chronométré.
D'accord.
Mais en général, ils savent très bien, ils ont dans leur tête le temps qui imparti, et il y a un suiveur qui est là pour leur indiquer le temps restant, etc.
Il y a la préparation mentale aussi, il y a toute cette partie...
En fait, dans le trial, il y a beaucoup de réflexion avant de franchir. Donc quand on arrive dans une zone avec sa moto, donc on fait son parcours de liaison, on arrive dans la zone, on pose tous les concurrents posent leur moto, ils vont reconnaître la zone un peu comme un skieur reconnaîtrait un slalom spécial, par exemple. Et donc, on regarde la zone, on regarde les portes qu'on a à franchir, on regarde les trajectoires qu'on va emprunter.
À pied.
À pied. À pied. Et donc,
ça se fait aussi dans le motocross, ça, non? Non, ça se fait pas.
Le motocross, c'est une vitesse. C'est
ouais, course mais il n'y a vitesse. Pas de reconnaissance comme ça, non? C'est...
Bah, une fois que vous avez fait le tour d'un terrain, vous savez
à peu près. En général, en motocross, ils le font quand même la veille à pied.
Ouais.
Oui. Et nous, donc, en trial, on reconnaît la zone, et après, donc, on va reprendre sa moto, et donc, il y a des commissaires dans les zones qui vous donnent le feu vert pour partir. Et puis pour vous pointer, parce que donc forcément le pointage se fait, donc la règle est assez simple, hein, un pied à terre c'est 1, 2 pieds à terre c'est 2, 3 pieds à terre ou plusieurs c'est 3.
Ah oui, pas en même temps, oui, pardon.
Et 5, pas en même temps. Hein.
Non mais je me suis dit.
Et l'échec est symbolisé par un 5, l'échec c'est le calage, la chute, la détérioration d'une banderole ou d'une flèche, etc. etc. Et le 0 étant le résultat idéal. À la fin de la zone, il y a un commissaire qui vous pointe, vous avez une cravate avec... il vous fait un trou comme le poinçonneur des lilas au bon endroit de la zone, et à la fin de la journée, on comptabilise le carton, et c'est celui qui a le moins de pieds qui a gagné.
Très bien.
En gros, c'est ça.
On sent bien toute la difficulté quand même dans ce que vous dites.
Quand on repère la zone et quand on va sur la moto, en fait, on l'a dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, dans le trial, on est dans les trajectoires quasiment au centimètre près.
Ah oui, forcément, vu
que ou avant ou arrière, on sait où elles sont placées, à quel endroit on veut les mettre.
Est-ce qu'on peut faire du trial avec, là vous évoquiez des préparations de moto sans selle notamment, ou des trucs comme ça pour être plus en aisance, mais est-ce qu'il y a vraiment des modèles de moto spécifiquement pour le trial et qu'on verra pas sur la route?
Ah, non,
et
non,
inversement, on peut pas en faire avec d'autres, c'est vraiment très spécifique.
Elles sont spécifiques trial, et donc effectivement elles n'ont pas de selle, parce qu'elles n'ont pas de selle, donc en fait quand on...
De toute façon on n'est pas assis hein, sur
un
trial.
On n'est pas assis, et donc en fait ces motos sont spécifiques hein. Il faut savoir qu'une moto de trial qui fait 300 cm3 ne fait que 70 kg. Hein.
Ah oui, elles sont très légères. Bah oui,
elles sont très légères. Et donc, elles ont des suspensions adaptées et aussi un moteur adapté. Par exemple, une moto de trial sur la route, malgré qu'elle ait une carte grise et qu'on pourrait rouler sur la route, à vitesse maximum, une moto de trial, c'est 70 km/h pour une 300 cm3. Les rapports sont tellement serrés qu'on...
Mais on a plusieurs rapports de vitesse d'ailleurs sur
six,
du trial et on passe les 6.
Non, en fait,
parce que j'ai l'impression, alors sauf si ça se passe autrement, mais plus on va vite, plus on change le rapport, quoi.
Non, oui, tout à fait. Mais là, en trial, en fait, les rapports qu'on utilise pour le franchissement des zones sont la plupart du temps la première, seconde, voire la troisième quand les obstacles sont vraiment très gros. Et les autres rapports servent uniquement en liaison.
Interzone. Oui, c'est ça, c'est sur les interzones. Voilà. Oui, c'est ça, c'est
en balade, quoi.
D'accord.
Voilà.
Non, mais ça fait partie des techniques un peu spécifiques.
Voilà. Et ça, c'est pour le trial moderne, et donc le trial vintage, c'est un petit peu différent puisque c'est le trial à l'ancienne qui est pratiqué avec des motos près 65 et près 80.
Alors du coup. Croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Moi, je veux savoir, c'est quoi la particularité du trial vintage? Bah oui, non, mais c'est...
Alors, la particularité du trial vintage, c'est des motos, donc, à la base, qui ont déjà le refroidissement moteur par air et non liquide.
Donc, ça chauffe plus?
Non.
Non.
C'est que la méthode de refroidissement du moteur n'est pas la même.
Ouais, mais ça n'a pas d'incidence sur la température, si, non? Parce que j'imagine qu'elles doivent chauffer ces motos de trial à rester sur place.
Ça classifie en fait l'année de construction.
D'accord,
ah
oui, c'est plus sur les années.
Quand Serge parle de près 65 ou près 80, ça veut dire des motos construites avant 1965 ou avant 1980.
Oui, bien sûr. Oui.
Et donc, en fonction des années, la technologie a évolué et on est passé de l'air à l'eau. Et du bi-amortisseur au mono-amortisseur.
Du tambour au disque pour les freins. Et voilà. Donc, le vintage, c'est ça.
Pour s'assurer d'avoir une moto ancienne, il faut qu'il y ait ces éléments-là.
Donc, c'est critères
à l'origine de la construction de la machine. Quoi.
Donc, c'est frein à tambour, refroidissement à air, bi-amortisseur. Les trois règles principales.
Je vous propose qu'on passe aux événements qui nous attendent, parce qu'en fait, l'agenda des Léopards est plein à craquer, pour ainsi dire. Et ça commence le même jour que l'ouverture des regards suspendus, le 1er avril.
Oui, et c'est pas un poisson, c'est une vraie date.
C'est
une vraie date de balade. Alors, on l'appelait la balade de printemps, parce que c'est la balade d'ouverture de la saison moto. Le printemps est déjà commencé depuis un petit moment. Mais c'est effectivement une rencontre importante dans la vie du motoclub, cette balade de printemps, organisée le 1er avril.
On fait quoi? Tout le monde est le bienvenu? Tout le monde s'inscrit du moment qu'il a une moto, c'est ça?
On s'inscrit au préalable. C'est vrai qu'aujourd'hui, organiser quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué que par le passé parce que les préfectures ont mis en place des contraintes auxquelles on doit se plier. Hein. Est-ce c'est bien? Est-ce pas bien? On est bien obligé d'accepter ces contraintes, notamment sur la limitation du nombre de motos. Donc c'est la première date importante des semaines à venir.
Quelqu'un qui sera intéressé, il contacte le club des Léopards.
Donc et le rendez-vous, voyez... c'est sur le parking de la Buffardière, à côté du Pré du Béléba, à 13h30 ou 14h, le samedi 1er avril.
Très bien. Eh bien, c'est noté. D'autres événements, parce que je crois qu'il y a une balade spécifique,
oui,
125,
balade,
qu'on a abordé tout
qu'on
à l'heure.
On a réalisé, construit là, pour les propriétaires de 125, donc qui est le 23 avril. Le dimanche, dans la matinée.
Ce qui ne les exclut pas du 1er avril, bien entendu, hein, mais
non.
C'est spécifique le 23 avril
mais
pour les 125.
Mais qui est réservé aux 125, justement, pour faire en sorte que ce public motard de qui possède des motos de faible cylindrée, 125 cm3, puisse avoir une manifestation qui leur soit réservée.
Les triales aussi, d'autres
rencontres. Alors ça, c'est... plus tard dans l'année
Parce qu'on peut y assister en tant que public, j'imagine, à ces compétitions,
oui,
triales.
C'est ouvert au public, et donc le point de regroupement des pilotes pour les inscriptions, pour les contrôles techniques et administratifs, c'est le gymnase du Canada, du lycée Léopold Senghor. Et puis les épreuves de classement, en fait, proprement dites, sont sur le parking de la Sablière, à côté de ce parking, en fait, le long du chemin Potier, sur la route qui conduit du boulevard des États-Unis à Navarre, Arnières-sur-Iton. Donc le long de cette route, sur la droite, on a un parking qui dessert tout un secteur qui nous est réservé, souvent sur lequel les compétiteurs viennent s'entraîner le dimanche matin. Et là, donc ce dimanche 8 octobre, on organise une épreuve classée sous l'égide de la Fédération Française de Moto et de la Ligue Motocycliste de Normandie.
On peut trouver ces infos-là sur Internet. Vous êtes trouvable où il faut aller à l'ALM un jour de permanence. Oui. Comment ça se passe?
Non, il y a les deux. On a une page Facebook, ALM MC Léopard. Et c'est la page Facebook qui permet d'avoir les informations sur nos sorties, sur bientôt on aura l'information sur les 125. Et sur le trial, bien sûr, il y aura une page spéciale pour eux.
Eh bien, c'est noté. 1er avril, il y a aussi, je fais une transition cavalière, à défaut de la faire motarde. Non, c'est... 1er avril, c'est également, on le disait tout à l'heure, l'ouverture. Alors, on va peut-être s'organiser pour les micros, je me permets, ouais, parce que voilà, on va faire un truc dans l'esprit pour... Il l'avait dit, Serge, qu'il commencerait par faire de la mécanique dans le studio. Il nous a customisé les câbles, il tire sur les micros, voilà. Il nous avait prévenu, hein, donc voilà. Nous voulions parler du coup de cette expo. Regard suspendu, c'est Frédéric Grimaud à la photo, Rémi Brumand Varly à l'écriture, et c'est Angèle-Marie Sophie à la peinture, et qui nous accueille.
Sculpture.
Peinture et sculpture, pardon. Sculpture. Et qui nous accueille dans le jardin de l'heure tranquille, où on est invité à y passer une heure tranquille avec les œuvres qui
dans sont. Dans l'heure.
Dans l'heure, exactement. C'est ça. Une heure dans l'heure. Ah non, c'est pas mal. Non, c'est parfait.
C'est réfléchi, hein.
C'est parfait. Vous disiez, Angèle-Marie, que vous aimiez aussi recevoir chaque année des artistes pour discuter artistiquement avec vos œuvres également. Qu'est-ce que ça apporte quand on est artiste d'échanger avec d'autres artistes d'autres disciplines? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça apporte aussi à ceux qui viennent visiter?
C'est très très important. Alors pour moi personnellement, hein, il y a d'autres artistes qui souhaitent peut-être moi, mais moi pour moi c'est extrêmement important et je suis ravie parce que ça ne marche pas toujours. Hein. Moi j'aime bien échanger et partager et il y a certaines artistes qui sont un petit peu frileuses là-dessus. Et en fait là avec Frédéric et Rémi c'était extraordinaire.
Ils ne sont pas frileux.
Ils ne sont pas frileux du tout. Non, c'était vraiment fantastique parce que moi j'aime bien, je lance un étincelle ciel et il faut que ça prend feu. Et ça a pris feu. Alors, ils ne sont pas frileux parce que ça a pris feu. J'aime beaucoup ces échanges rapides. Non de, on lance un truc et hop, l'autre, il répond et ça, il les met en action. Et ça, ça a bien, bien marché avec les deux. J'ai déjà eu d'autres expériences où ça ne marche pas du tout. Le genre ne répond pas ou ça n'avance pas. Voilà, moi, je suis peut-être un peu rapide pour eux, mais voilà. Là, cette année, c'était fantastique.
Parce que ça oblige quand même, quand on croise, quand on est sur une exposition commune, ça oblige à se répondre artistiquement.
Exactement.
Également. C'est, ça oblige
exactement
à avoir un dialogue, une discussion. Et finalement, on est sur des travaux, pour une bonne partie, j'imagine, déjà réalisés. Et du coup, il faut les mettre en écho, il faut les mettre en résonance. Comment ça se passe? C'était quoi? Ça a été un apéro, une grande... non, mais je dis ça, c'est souvent autour d'un verre ou de la nourriture que les gens se discutent. Hein, ça arrive souvent.
Les meilleures idées arrivent comme ça. Hein.
Mais souvent, ouais, ça arrive comme ça. Comment ça s'est passé? Vous, comment est-ce que finalement on arrive à croiser le travail des uns et des autres? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est très simple. Moi, je choisis les personnes qui vont rendre dans l'espace. Hein, parce que c'est quand même mon jardin. C'est moi qui ai créé ce parcours artistique. Il y a certaines sculptures qui sont déjà sur place et qui font appel. Après, je connaissais, j'ai vu les fenêtres, la porte photo installation chez Frédéric. Et j'ai dit, mais voilà, ça, c'est un truc pour mon jardin. Est-ce que ça te dirait? Voilà. D'abord, c'était une, deux. Maintenant, on arrive à 15 installations quand même.
Ouais,
alors, ça commence comme ça. Moi, c'est pareil. Moi, ça m'inspire. Alors, par exemple, les textes de Rémi m'ont poussé à réaliser une sculpture. Parce que le texte, il m'a parlé. Voilà.
C'est vrai qu'il y a des choses au départ qui n'étaient pas du tout prévues. Quand on commence un projet à plusieurs, on ne sait pas où on va, en fait. On a une thématique, mais voilà, c'est comme de la broderie. Hein. Au Népal, par exemple, les femmes brodent sans modèle, en fait. Donc, c'est un peu improvisation.
C'est un peu l'image.
C'est ça qu'on aime.
L'image des motos, hein. Ouais. C'est pareil.
C'est, voilà, c'est...
Il faut trouver un équilibre. Hein. Parce que sinon, bon, bah...
C'est tout à fait. Autrement, on perd les pinceaux.
Voilà.
Non, mais finalement, au début, je m'étais dit un club de motards et puis une expo. Il n'y a pas de lien, mais finalement, il y a tous les liens, finalement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et on s'en rend compte là maintenant.
C'est
oui, alors il y a la passion.
Et il y a, vous disiez, la vibration, la musique de la bête. Hein. Et ça, chez nous, c'est exactement la même chose. C'est la vibration qui porte. Et si on lance quelque chose et l'autre y répond, c'est une vibration d'une passion qui se ouvre. Effectivement, l'artiste, il doit être ouvert et ne pas être dans une crainte, jalousie, parce que là, ça ne marche pas. Les portes se ferment. Mais là, dans ce jardin-là, les portes se ouvrent. Même s'ils sont fermés.
C'est les portes ouvertes fermées.
Voilà,
c'est
exactement.
Très bien. Justement, sur cette notion de regard suspendu, avec le pluriel ou pas, c'est comme ça que c'est affiché, regard suspendu au pluriel ou pas, ça c'est vous qui verrez. C'est quoi? C'est amener le visiteur à lui-même porter son regard, de guider son regard. Comment ça se passe, cette histoire de regard? Comment est-ce qu'on accompagne le visiteur?
Alors, on était parti sur cette idée que moi, je suis un peu terrestre, et lui, Frédéric, il présente ces installations où on regarde derrière une porte. Hein. On voit une porte, mais on voit quelque chose qui ne correspond pas. Et c'est un peu ça, qu'est-ce qui nous amène à ouvrir une porte ou à pousser une porte. Hein. Et après, on a repris Rémi en plus, qui nous apporte un regard plus verticalisé. Que moi, je suis entre les deux. Hein. Moi, je trouve. Avec les sculptures qui sont très longévines, qui lient un petit peu la terre et le ciel. Alors, c'est venu un peu comme ça. Et j'aime beaucoup les... Rémi parle des romans bonsaï. Ça veut dire, c'est presque comme des haku. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. Il faut qu'on imagine beaucoup de choses entre. Et c'est ça qui me plaît énormément, parce qu'on lit en fait les sculptures qui sont très verticalisées, les photos qui sont plutôt dans les chemins et dans les abords, et on a une poésie qui flotte au-dessus.
C'est aussi le visiteur, vous évoquiez la notion de remplir les espaces par sa propre interprétation. C'est aussi tout essentiel quand on est visiteur d'une exposition artistique, de pouvoir soi-même avoir écho ou pas, d'ailleurs, sur certaines pièces ou sur certains éléments. Et puis surtout qu'il n'y ait pas une interprétation fléchée, mais que chacun puisse en faire sa propre interprétation, j'imagine.
Absolument, ça c'est mon cheval de bataille, parce que j'aime pas du tout qu'on inflige un regard. sur une œuvre d'art. Une œuvre d'art te parle ou ne te parle pas. Et pour terminer cette exposition, je propose mon invention, ce fois avec Rémi, c'est la peinture évanescente, où les formes et les couleurs se déploient sur une musique. Le spectateur y voit juste les formes et les couleurs apparaître, disparaître, comme dans la nature. Il fait sa propre idée, pendant que moi, je peins derrière, on ne me voit pas. Et ce fois, ça va être avec des textes de Rémi qui flottent encore plus à ce moment-là. Et là, c'est vraiment ce souhait de, que le visiteur, il absorbe, il contemple, il parcourt ce jardin avec ses œuvres qui se glissent dans la végétation.
C'est ça, puis qu'il en prenne ou pas d'ailleurs son truc. Sur cette notion d'art, on l'évoquait à l'instant, moi j'ai toujours trouvé à titre personnel que quand il y avait trop d'explications sur une œuvre, finalement, c'est qu'elle ne suffisait pas à elle-même.
Absolument, avec la musique c'est pareil, si les gens ils commencent à expliquer longuement la musique...
L'exposition, donc le vernissage et l'ouverture, c'est le 1er avril à 17h au Jardin de l'Heure Tranquille, c'est aux ventes, 5 rue de la Trigale, aux ventes.
C'est ça.
Si on rate le 1er avril à 17h, est-ce qu'on peut voir cette exposition tout de même?
Bah pendant 6 mois.
Ah,
vous avez le temps.
Eh ben voilà. Pendant 6 mois, ouais. On peut voir donc l'exposition.
L'exposition tout le mercredi, samedi et dimanche.
Mercredi,
sur réservation.
Samedi, dimanche sur réservation.
Sur réservation. Autrement, les groupes, je travaille avec l'Office du tourisme normand et aussi avec le comptoir de loisirs. On peut s'inscrire là-bas. Voilà. Après, on a pris plein de manifestations, toute une programmation pour des stages de théâtre, des ateliers, des photos, des journées nationales du jardin. On est inscrit pendant 3 jours. La visite est gratuite le vendredi 2 juin. Et samedi, vous avez un parcours théâtral avec Rémi qui va revoir l'exposition encore dans un autre regard. Et comme ça, ça se traîne jusqu'au mois d'août, septembre et on termine le 21 octobre avec une peinture évanescente avec les lectures de Rémi Prumont.
C'est de l'exposition vivante, en fait, ce dont vous me parlez.
En fait, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a, comme tu dis, écriture, sculpture, peinture, photographie.
Théâtre.
Mais aussi vidéo, son, musique. Parce que j'ai créé, en fait, des compositions originales, 4 au total, pour les textes de Rémi.
Parce que monsieur n'est pas que photographe.
Je les ai enregistrés pour réciter des poèmes qui sont sur une musique avec des images aussi.
Ouais. Voilà, c'est aussi cette notion d'art vivant, en fait.
Absolument.
Ce n'est pas juste je me pose devant l'œuvre et puis j'appréhende, c'est l'œuvre me propose elle aussi quelque chose de vivant.
C'est vrai qu'à plusieurs, il y a une émulation qui se crée aussi. Donc il y a des nouvelles idées qui arrivent par-ci, par-là.
C'est ça. Ouais,
c'est ça qui est intéressant, c'est que rien n'est figé, en fait. Là, on pourrait refaire des choses, mais bon.
On va attendre. Mais amenez votre téléphone avec une application QR code. Vous avez besoin pour regarder les vidéos qui étaient créées avec nous trois. Pour faire tout encore.
Ah oui, pour aller au-delà de ce qui est proposé physiquement.
Mais le 21 octobre, la musique sera dans la nature aussi.
Dans la nature avec un spectacle. Ouais. Voilà, c'est ça.
Très bien, ben voilà. Bon, on suivra de près. De toute façon, Frédéric, on le connaît bien. Il nous laissera un petit message à l'occasion sur le répondeur ou autre pour nous prévenir de ce qui se passe.
Ah oui, 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 exact. Il y a un Facebook et un Instagram, L'Heure Tranquille. Hein, voilà, où il y a le programme.
Toutes les informations sont sur Facebook, sur Instagram ou sur www.engelmariesophie.com.
Comptoir des loisirs aussi.
Voilà, on peut pas louper quoi. On peut pas louper. On invite les gens à y aller en fait, tout simplement, parce qu'on parle d'art. Mais faut y aller, en fait, le vivre. On parle de moto, mais faut monter dessus pour y aller au bout d'un moment. Parce qu'on parle, mais finalement, ce qu'il faut, c'est faire. Hein. C'est ça l'objet de tout ce qui nous attend. 1er avril, en tout cas, c'est le rendez-vous ouverture et vernissage de l'exposition au Jardin de l'Heure Tranquille. Je le dis, c'est aux ventes. En tout cas, réservez, prenez des infos. C'est l'a dit, il y a Facebook, il y a Instagram.
Il y a le site. 5 rue de la Trigale, quand même.
Oui, 5 rue de la Trigale, exactement, aux ventes. Comptoir des loisirs qui détiennent des informations. Enfin, suivez le guide, quoi, j'ai envie de dire. Mais au bout d'un moment, suivez le guide.
Et de votre intuition.
Et voilà. Et nous, sur le Facebook de la radio et l'Instagram de la radio, maintenant, eh bien, on mettra le lien pour retrouver la page Facebook de L'Heure Tranquille, bien entendu. On mettra celui du Club des Léopards aussi, c'est promis. Là, je vois les léopards qui sont en face de moi. Et bien sûr qu'on mettra les léopards aussi. Voilà, c'est très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup à vous de nous avoir honoré de votre présence ce matin sur notre...
Merci.
Eh bien je vous en prie, c'était un vrai plaisir de parler moto et art. Je pensais que c'était pas trop compatible au début et on s'est rendu compte que finalement ça marchait bien hein, tout ensemble.
Toutes les passionnées.
Eh bien voilà, c'est ça. C'est en fait peut-être réunir des passionnés qui fait que ça fonctionne. Hein. Je crois que c'est ça.
Absolument.
Eh bien, merci beaucoup, une fois de plus, le Club des Léopards. Merci beaucoup, le Jardin de l'Heure Tranquille, d'être passé par nos studios pour nous voir. Écoute, restez à l'écoute de nos programmes de Principes Actifs et d'HDR. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont cool.